ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Amélie Beaucourt.
Bonjour à tous, bienvenue. Ravie de vous retrouver pour le dernier rendez-vous de 7 milliards de voisins de cette semaine. Et on va s'évader un peu juste avant le week-end en parlant des vacances. Même si la machine touristique est actuellement en panne à cause de la crise de Covid, elle a atteint un seuil sans précédent en 2019, mais pourrait tout à fait redémarrer après la pandémie si on ne l'arrête pas à temps. Rien de plus désagréable quand on est en vacances de réaliser que des milliers d'autres individus ont eu la même idée au même moment et viennent perturber votre tranquillité. Attention toutefois à ne pas tomber dans la touristophobie, concept un peu hypocrite inventé par le touriste lui-même. Mais critiquer le tourisme de manière globale, cette machine infernale tant génératrice que destructrice de richesses, on va se l'autoriser aujourd'hui. Comment sauver nos vacances sans détruire le monde ? Eh bien, c'est justement le sous-titre de l'ouvrage de notre invité Rémi Knafou, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris et auteur de « Réinventer le tourisme » aux éditions du Faubourg. Bonjour Rémi Knafou.
Bonjour.
Pour en parler, nous interrogerons également l'anthropologue Saskia Cousin en ligne avec nous depuis le Bénin. Bonjour Saskia Cousin.
Bonjour.
Et avec nous en studio, Éric Balian, directeur de Terre d'Aventure, un voyagiste français spécialiste du voyage à pied et membre fondateur d'ATR, l'association Agir pour un tourisme durable. Bonjour.
Bonjour.
On quittera le studio de RFI à Paris pendant quelques instants pour aller à Madrid, où le tourisme fait des ravages, avec notre correspondante sur place, Inès Edel Garcia. Vos réactions, les voisins, nous les attendons sur nos réseaux sociaux et sur notre fil WhatsApp. Le numéro, c'est le 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
J'ai mis le nom 7 milliards. Parce que nous sommes 7 milliards d'habitants sur la Terre et voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Voici la saison des grands roues. On dira sans doute que la généralisation de ce dépaysement annuel ou hebdomadaire est un signe des temps. Phénomène respiratoire qu'a vulgarisé le moteur individuel, il n'est pas exempt d'une certaine nostalgie naïve des choses bucoliques. L'été venu, il n'est plus de chemin campagnard au détour duquel ne s'installe un campement. Chaque semaine, des groupes s'évadent des villes, des clubs se créent pour respirer l'air pur et vivre des heures de détente qui sont la cure de désintoxication d'une semaine de grande ville. Et une race nouvelle est née, les Vespistes, race née des fins de semaine et de l'époque des vacances. Comme on comprend d'ailleurs ces jeunes gens de préférer, au bruit et aux poussières citadines, le bord d'une rivière, les prés et les bois. La route des champs, l'exode des villes, une forme de la vie moderne.
Alors cette archive, Ina, qu'on vient de diffuser, elle date de 1956. C'était encore les prémices du tourisme et des vacances. Rien à voir avec aujourd'hui, quoique. Et vous, Rémi Knafou, vous étiez un tout jeune touriste dans ces années-là. Comment c'était ?
Écoutez, c'était à la fois différent et pas mal semblable à ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Alors différent parce que effectivement, d'abord on voyageait souvent beaucoup moins loin. Ensuite, parce que l'avion était réservé à une toute petite élite. En même temps, il y avait déjà des lieux qui étaient saturés. Moi, j'ai souvenir parce que j'ai été touriste très jeune, effectivement, dans mon enfance. C'était le tout début. En tant que touriste, j'ai souvenir de lieux qui étaient déjà où il y avait énormément de monde, en tout cas suffisamment de monde pour pouvoir affecter ma propre visite du lieu, et puis des bouchons routiers, etc. Enfin bon, mais avec un réseau routier qui était évidemment pas dimensionné comme aujourd'hui, puisque globalement le nombre des touristes était infiniment plus faible, mais il y avait déjà des prémices, effectivement, des signes avant-coureurs de ce qu'allait devenir le tourisme que nous connaissons aujourd'hui, enfin, disons, jusqu'en 2019, mais avec la crise majeure que vient de rencontrer, que rencontre encore le secteur touristique.
Oui, dans votre livre, vous donnez un chiffre qui en dit long. En 1950, c'est 25 millions d'arrivées internationales. Oui. Et en 2019, 1,5 milliard. C'est énorme.
Voilà, c'est énorme. Et en plus, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, hein, parce que il s'agit des arrivées internationales, mais l'essentiel du tourisme dans le monde et des pratiques vacancières, des pratiques touristiques, se déroule à l'intérieur des frontières nationales et n'est pas compté dans ces chiffres-là. Donc le nombre des touristes est bien supérieur à ce 1,5 milliard et nous étions en 2019 face à un accroissement de type exponentiel, c'est-à-dire qu'on n'en voyait pas vraiment la fin. Et l'esprit humain est configuré de telle manière qu'il n'est pas facile pour lui d'envisager les retournements de tendance.
Depuis quand est-ce qu'on fait du tourisme d'ailleurs et qui fait du tourisme? Est-ce qu'on peut dire que tout le monde en fait depuis toujours ou c'est complètement faux?
Ah non, non. Le phénomène touristique, bon, on peut discuter sur les conditions de son apparition, mais c'est une invention de la Société européenne des Lumières, parallèlement d'ailleurs à la révolution industrielle. Ça commence à se préciser deuxième moitié du XVIIIe siècle, même s'il y avait de nombreux signes avant-coureurs. Et on peut légitimement parler du tourisme, de touristes et de tourisme à partir du moment où les mots eux-mêmes ont été forgés. C'est-à-dire le tout début du XIXe siècle, là, le mot touriste existe en anglais d'abord, puis en français, et puis ensuite l'activité elle-même que recouvre ce parcours, le tourisme, ça apparaît un petit peu plus tard dans le courant de la première moitié du XIXe siècle. Mais c'est une activité réservée à l'aristocratie et à la haute bourgeoisie pour l'essentiel. La démocratisation, elle a été progressive tout au long du XIXe siècle, et puis après la Seconde Guerre mondiale, les choses se sont accélérées. Mais même aujourd'hui, tout le monde n'est pas touriste. Même si nous vivons dans des sociétés dont le rythme est marqué, rythmé par le tourisme, tout le monde n'est pas touriste. En France, on en est à peu près à 2/3 de taux de départ en vacances, ce qui veut dire quand même qu'il y a 1/3 qui ne part pas, mm-hmm. qui ne part pas régulièrement, pour des raisons variées, que ce soit la maladie, l'âge, et puis l'incapacité financière, parce que cela coûte. Donc voilà comment les choses se présentent à l'échelle mondial. Et je crois que je vais peut-être arrêter là ma réponse parce que je ne veux pas monopoliser la parole.
J'allais revenir sur ce que vous disiez justement il y a quelques instants. Ces mots, le mot tourisme par exemple, on le confond souvent, on l'emploie peut-être à tort aussi avec le mot voyage et vacances. Saskia Cousin, est-ce que vous pourriez nous dire quelle distinction est-ce qu'il faut faire entre ces termes voyage, tourisme, vacances?
La manière dont on regarde et le point de vue depuis lequel on regarde les vacances, le tourisme, le voyage va amener des choses très différentes. Par exemple, effectivement, le tourisme tel qu'il est nommé est une invention occidentale qu'on peut dater au 18e, 19e. Mais si on s'intéresse au désir de voyage, au désir de vacances, au désir d'aventure, au fait de, en fait, c'est beaucoup plus ancien. Également l'hospitalité marchande. Il y a des auberges japonaises, il y en a une qui est encore en fonctionnement, qui date du 7e siècle. On trouve ça en Europe dès le 5e siècle. Il y a ce désir de vacances et il y a ce désir d'aventure qui est commun, en fait, à l'humanité. Simplement, il va y avoir une organisation technique, politique, qui va se mettre en œuvre dans un contexte géographique particulier qui est celui d'Occident du 19e. Ensuite, en termes de définition, encore une fois, on part en vacances, on a du temps libre. Dans ce temps libre, une petite partie de ce temps libre va être consacrée à des mobilités de loisirs. Dans ces mobilités de loisirs, il y a notamment les vacances, mais il y a aussi le fait d'aller avoir une pratique de loisir pas loin de chez soi. Et dans ces vacances, il y a un petit nombre de gens, et qui sont minoritaires, qui vont faire du tourisme. On voit les choses du point de vue des pratiques. Évidemment, du point de vue de l'industrie ou de l'artisanat du tourisme, on va le voir par rapport à ceux qui consomment de l'industrie ou de l'artisanat touristique, c'est-à-dire qui vont avoir des pratiques de consommation marchande. Or, on sait très bien que la grande majorité des gens qui partent en vacances, en fait, ne consomment pas des activités marchandes. Ils partent dans de la famille et des amis, ils utilisent des transports, par exemple leur voiture personnelle, et donc pas le transport aérien. Donc c'est très compliqué, c'est ce qu'a dit Rémi, c'est d'estimer le tourisme. On sait que la majorité des touristes sont domestiques, c'est-à-dire ils partent chez eux, mm-hmm. et aussi que On pense que ce n'est pas 1,5 milliard de touristes, hein, c'est 1,5 milliard d'arrivées internationales. Mm-hmm. Mais selon les estimations, on est plutôt aux environs de 200 millions de personnes qui vont voyager dans ces 1,5 milliard d'arrivées internationales. 200 millions de personnes environ vont voyager pour leur loisir.
Mm, et on comprend
c'est-à-dire
que
pas pour affaires, etc.
On comprend que l'image actuelle qu'on a, enfin qui est véhiculée aussi beaucoup par la publicité du tourisme, qui va être représentée, oui, par ces vols internationaux, partir loin dans un autre pays, voire sur un autre continent, la map monde qui tourne, etc. C'est loin de la réalité, effectivement. Éric Balian, vous êtes directeur général de Terre d'Aventure, donc un tour opérateur un peu particulier, parce que vous proposez des voyages à pied. Et vous êtes cofondateur d'ATR, l'association Agir pour un tourisme responsable. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'association ?
Oui, bien sûr. Alors, l'association ATR est une association qui regroupe aujourd'hui une soixantaine de membres, peut-être plus, 70, je pense, qui a été créée en 2005 avec un tout petit noyau d'opérateurs de voyages d'aventure à l'époque. Nous étions une petite poignée, hein, 5 ou 6. Et l'objectif de cette association à l'époque était de promouvoir des pratiques responsables dans le tourisme et en particulier dans le domaine du voyage d'aventure tel qu'on le réalisait à l'époque. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire se mettre d'accord entre nous sur quelles doivent être les conditions sociales d'embauche d'un guide dans une destination, quelles doivent être les couvertures sociales dont doivent bénéficier ces guides ou les collaborateurs qui travaillent à l'organisation des voyages sur place, quelles doivent être des règles de gestion des déchets, des règles de kilos maximum qui doivent être portées par certains porteurs qui sont encore aujourd'hui employés pour véhiculer les bagages de nos clients. Donc l'idée était de mettre en place cet ensemble de règles pour l'ensemble des opérateurs. Alors depuis, ça a beaucoup évolué, hein, puisque l'association s'est dotée d'un cahier des charges avec 80 critères pour qu'ils définissent ce qu'on appelle le tourisme responsable. Ce cahier des charges fait l'objet également d'audits qui sont labellisés par l'entreprise EcoCert. Et donc chaque membre de l'association ATR, aujourd'hui, doit passer par un processus de mise en place de ces critères au sein de son organisation vis-à-vis des partenaires avec lesquels ils travaillent à destination et faire en sorte que l'ensemble de ces actions puissent être mesurées, contrôlées sur ces différents éléments-là. Donc, parmi ces critères, je vais vous donner un exemple. Il y a le critère, par exemple, de minimum social à payer pour un guide, j'en parlais au départ, qui est défini selon les pays, puisque les niveaux de vie dépendent effectivement des niveaux de richesse de chacun des pays. Il peut y avoir aussi des engagements de non-utilisation de plastique ou de tout autre matériaux pouvant dégrader l'environnement. Il y a aussi un engagement qui est fort, qui est un engagement de compensation ou d'absorption de ces émissions de carbone au niveau de l'entreprise dans un premier temps et également sur l'ensemble des émissions des clients, donc des membres de l'association ATR.
Comment ça marche ça ?
Alors comment ça marche concrètement ? Eh bien, ça veut dire que chaque membre de l'association ATR s'engage à faire d'abord ce qu'on appelle un bilan carbone. Donc un bilan carbone, c'est estimer ses émissions et particulièrement les émissions de ses clients pendant les voyages. Donc de manière très concrète, c'est regarder quelle est la longueur d'un vol quand il y a un avion dans une prestation de voyage. En fonction de cette distance, utiliser une méthode de calcul des émissions de CO2 et en l'occurrence, on utilise la méthode de l'ADEME en France. Pouvoir, en fonction de cette distance, déterminer les émissions de CO2 liées au vol et on va décliner ensuite le calcul du bilan carbone pour l'ensemble de la chaîne de prestations qu'il peut y avoir dans un voyage, les déplacements en voiture, les hébergements, les repas. Et une fois qu'on a déterminé donc, l'ensemble des émissions carbone, l'engagement est pris de d'abord se concentrer sur ces émissions pour pouvoir imaginer comment les réduire, puisque l'objectif étant bien sûr d'émettre le moins possible de carbone dans l'organisation de ces voyages, et il y a plein d'outils pour le faire. Et enfin, toutes les émissions résiduelles qu'on ne peut pas réduire, s'engager à les absorber par des projets d'absorption carbone. Alors, on pourra en parler si vous le souhaitez, mais il y a différents projets qui sont mis en œuvre par les membres de l'association.
Le tourisme durable, c'est aussi une carte qui peut être brandie à tort ou pour faire joli, pour convaincre des touristes de venir dans certains endroits. Comment est-ce qu'on fait la distinction entre une entreprise qui joue vraiment le jeu, une ONG qui joue vraiment le jeu, et quelqu'un qui fait concrètement du greenwashing ?
Vous avez raison de le dire. C'est sûr que quand on a commencé, nous, en 2005, peu de personnes en parlaient. Aujourd'hui, c'est devenu un terme à la mode, un terme important, d'autant plus mis en avant depuis la crise du Covid. Donc, comment on peut faire? Eh bien, déjà, on peut regarder quels sont les éléments constitutifs du voyage. Comment il est organisé? Quelles sont les modalités de transport qui sont utilisées pendant ce voyage?
Donc, en tant que touriste, quand je réserve auprès d'une entreprise, je m'assure que...
Par exemple, dans les engagements de l'association Agir pour un tourisme responsable, chaque opérateur, chaque agence de voyage s'engage à diffuser auprès de ses clients quelles sont les pratiques du tourisme responsable, qu'est-ce que nous faisons sur le terrain, qu'est-ce que nous nous engageons à faire. Et chaque client est aussi... on demande à chaque client, de pouvoir nous juger sur ses pratiques sur le terrain quand ils y sont, et en remplissant un ensemble de questions qui sont les mêmes pour tous les tour opérateurs et en nous remontant les informations qu'ils considèrent comme étant justifiées ou pas justifiées. Et dans un processus de contrôle et d'audit récurrent que les auditeurs des concerts vont vérifier chez nous et qui nous amène aussi à mettre en place des politiques d'amélioration sur l'ensemble de ces éléments-là.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Libreville, 104 FM.
Alors nous avons un auditeur en ligne, il s'agit de Joël à Libreville au Gabon. Bonjour Joël.
Bonjour Amélie.
Joël, vous êtes membre d'une ONG, je crois, qui œuvre pour l'environnement et le tourisme durable, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est que cette ONG et quelles actions est-ce que vous mettez en place pour œuvrer justement pour ce tourisme durable?
Alors oui, bon, notre ONG a pour but de militer dans le tourisme durable et la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Donc, nous menons des activités à but non lucratif pour essayer d'amener au maximum de tourisme, que ce soit des tourismes locaux et internationaux, à une prise de conscience collective.
Et concrètement, sur le terrain, comment est-ce que vous faites ça? Oui.
D'accord. Nous organisons souvent des activités touristiques qui respecte la biodiversité et l'environnement, tout en utilisant des emballages alimentaires écologiques et des conteneurs biodégradables afin de limiter notre impact écologique et son impact sur l'environnement, tout en utilisant des transports propres qui privilégient le tourisme vert.
D'accord. Tout ça, c'est à Libreville, c'est ça, au Gabon?
Oui, à Libreville, au Gabon, bien sûr.
Et donc, vous utilisez ces contenants biodégradables pour sensibiliser vos touristes, qui sont à la fois des locaux et des internationaux, si j'ai bien compris,
à respecter
l'environnement. Éric Balian, justement, des ONG comme celle-ci, je suppose que vous travaillez avec elle à Terre d'Aventure. Comment est-ce que vous développez vos partenariats avec ces acteurs locaux?
Alors, on va travailler avec des collectivités ou des entreprises locales à plusieurs niveaux. Dans le cadre d'hébergement, puisque les voyages que nous organisons sont des voyages qui se font en petits groupes, dans lesquels on va privilégier des petits hébergements locaux. Donc toutes les associations ou toutes les collectivités qui vont promouvoir la possibilité pour des populations locales de développer des lieux d'hébergement insolites ou adaptés à l'environnement dans lequel ils se trouvent sont pour nous des interlocuteurs privilégiés. On va aussi travailler avec des ONG pour tout ce qui va être sensibilisation de nos clients à des événements particuliers qui concernent le climat de la région ou alors à des événements particuliers qui va concerner le respect de certaines zones particulièrement fragiles. Donc c'est le cas en Patagonie, c'est le cas en Islande, sur certains sentiers dans lesquels on demande expressément à nos clients de ne pas sortir des voies tracées pour ne pas détériorer la flore locale. Et on peut aussi travailler avec des ONG qui vont nous permettre de désenclaver certaines régions, les rendre plus accessibles pour que puisse se développer un tourisme local dans lequel nos clients pourront éventuellement s'inscrire pour pouvoir permettre aussi aux habitants de ces régions-là de pouvoir aussi vivre d'une partie de l'activité touristique. Enfin, ça nous arrive, un dernier petit élément, de mettre à contribution nos clients qui le souhaitent sur des projets de reforestation ou de plantation de mangroves. Donc, c'est le cas, par exemple, au Sénégal ou en Indonésie, où on va proposer à nos clients d'aller participer à des replantations de palétuviers dans des champs de mangroves, qui sont des projets que nous soutenons dans nos cadres d'absorption de CO2, de projets d'absorption de CO2, pardon.
Rémi Knafou, ce genre d'ONG, celle de Joël qu'on vient d'entendre, notre auditeur au Gabon, qui ancre donc le tourisme durable dans l'ADN de ses projets, est-ce que c'est un phénomène récent ?
Non, ce n'est pas un phénomène récent. Il y a beaucoup d'initiatives de ce type et c'est très bien. La réserve que je ferai, c'est que ça n'est pas à l'échelle des problèmes à résoudre. Mais en même temps, c'est en multipliant des petites initiatives aussi comme ça que les choses avancent et finiront par avancer plus rapidement. Mais tout ça n'est pas récent parce que tout à l'heure, vous faisiez allusion à mon grand âge et à mes vacances dans les années 50. Sans remonter jusque-là, il se trouve qu'en 1989, j'étais présent à la première conférence mondiale sur la relation tourisme-environnement qui se déroulait aux Canaries, à Tenerife. Et 6 ans plus tard, il y avait la première conférence mondiale intitulée « Tourisme durable » et qui a produit la charte du tourisme durable. Alors vous voyez, 89, 95, 89, ça fait 32 ans maintenant qu'on parle de tourisme durable. Et on ne peut pas dire que le modèle dominant à l'heure actuelle, je parle du modèle commercial, puisque Saskia avait raison de rappeler qu'une grande partie du tourisme est un tourisme non marchand, en plus qui reste dans les frontières nationales, mais il y a un modèle touristique international qui ne paraît pas tout à fait durable, même s'il y a des efforts qui ont été faits. Parce que depuis la fin du XXe siècle, des efforts il y en a eu, mais on doit remarquer qu'elles peut-être davantage dans le domaine des entreprises que dans le domaine des territoires touristiques eux-mêmes. Les destinations touristiques n'ont pas toujours tenu compte de ça. Nous avons un discours qui est très élaboré sur le tourisme durable. Les mises en acte sont plutôt laborieuses. Parce que je me souviens qu'en 89, le président du gouvernement des Canaries qui nous accueillait se félicitait de ce nouveau mouvement et disait qu'il allait s'en inspirer. Après, ils ont accueilli cette conférence mondiale sur le tourisme durable. Mais pendant ce temps-là, ils ont continué à urbaniser de manière impavide, comme si rien ne s'était passé. Donc il y a une distorsion qui va croissante, qui allait jusqu'en 2019, entre d'une part les discours et des principes qui sont très bons et des réalisations qui parfois tardent beaucoup quand elles ne sont pas en contradiction avec les principes en question.
Restez à l'écoute, les voisins. On continue notre discussion après une petite escale en Californie en compagnie du grand Bobby Womack. C'est California Dreaming sur RFI.
Brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in LA. On such a winter's day, went to a church yesterday. I stopped along the way. Well, I got down on my bending knees and I began to pray. You know, the preacher digs a call, 'cause he knows I'm gonna stay. He knows I'm gonna stay. Yeah.
Écoutez 7 milliards de voisins sur RFI avec aujourd'hui une émission consacrée au tourisme de demain avec Rémi Knafou, auteur de Réinventer le tourisme, sauver nos vacances sans détruire le monde aux éditions du Faubourg, avec également Saskia Cousin, anthropologue au téléphone avec nous du Bénin et Éric Balian en studio de l'association Agir pour un tourisme responsable. Alors il faut évidemment dire un mot de la pandémie de Covid qui a complètement rebattu les cartes du tourisme. Saskia Cousin, ça a d'abord modifier nos pratiques, les frontières étant fermées, plus possible de partir à l'étranger ou en tout cas avec de nombreuses restrictions, comme c'est encore le cas actuellement. On a donc vu des Français partir en France plutôt qu'en Italie, en Espagne ou au Portugal. Est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que d'autres citoyens d'autres pays ont également fait la même chose ?
Alors, le monde entier a été confiné dans ses frontières ou presque. Hein. Donc, c'est pas en termes de relocalisation des vacanciers, ça, c'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Aussi rappeler que entre 75 et 80% des Français partent en vacances en France. Donc, on a eu à l'été 2020 95% des Français qui sont partis en vacances. Mais ça a renforcé quelque chose qui est déjà structurel, c'est-à-dire une partie de la population qui partait à l'étranger s'est relocalisée en France. La différence avec d'autres nations, c'est finalement moins la résilience du touriste que la résistance des vacances. C'est-à-dire les Français, bon, ils ne sont pas les seuls, hein, mais c'est vraiment très important, continuent à partir en vacances. On l'a vu également pendant la crise de 2008. Quoi qu'il arrive, il y a quand même cette volonté de partir, que ce soit à côté de chez soi ou plus loin. Donc en ça, c'est spécifique, mais le fait de se relocaliser chez soi, effectivement, ça a été le cas de la majorité des gens qui ont pu partir en vacances, puisqu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas pu partir en vacances, notamment parce que en raison de perte de revenus.
Est-ce que ça va se pérenniser, selon vous ? Est-ce que la destination, disons, locale à l'intérieur des frontières domestiques va devenir à la mode ?
Alors, elle n'est pas à la mode, mais elle est structurelle. Encore une fois, c'est le principe des vacances populaires. Simplement, l'imaginaire que vous évoquiez tout à l'heure, du voyage, c'est forcément loin, c'est forcément en prenant l'avion. Et donc ça s'est effondré. C'est ça qui s'est effondré. Mais pas les pratiques. Donc, il y a une petite partie des gens qui partent à l'étranger qui, peut-être, vont se rendre compte que ça peut être intéressant de pratiquer l'aventure près de chez soi. Maintenant, je suis pas futurologue et... quand on fait des enquêtes, on voit qu'un certain nombre de gens, et notamment les jeunes, et c'est normal, en fait, souhaitent repartir à l'étranger. Il y a un certain petit nombre qui a des préoccupations écologiques, mais il y a aussi, par exemple, il y a eu un boom d'achat des résidences secondaires l'été dernier. Donc, en fait, il y a des gens qui ont investi, en fait, et qui, finalement, on peut imaginer qu'ils vont peut-être changer leur pratique. Mais ça, encore une fois, c'est une petite partie des Français, et les Français eux-mêmes sont une petite partie de l'humanité. Voilà, la plupart des gens partent quand ils peuvent partir assez près de chez eux. L'enjeu, c'est plutôt pour l'industrie touristique, c'est-à-dire ce qu'on imagine comme l'industrie touristique, donc l'industrie aérienne notamment, et l'industrie de l'hébergement marchand. Où là, on peut voir, selon les pays, qu'il y a eu donc un arrêt total pratiquement pour l'avion, et puis un décrochage de l'hôtellerie marchande. Voilà. Mais les choses se jouent très différemment dans d'autres pays. Donc, pour moi qui ai travaillé un peu au Sénégal ou au Bénin, voilà, la façon de partir Il y a eu une relocalisation, on va dire, des élites sénégalaises dans leur propre pays. Mmh. Par exemple.
On a un auditeur de Douala au Cameroun, Achille, qui nous dit justement, de toute façon, il vaut mieux voyager dans son pays pour l'instant, car chez nous, ça reste très compliqué de voyager. Peu de gens sont vaccinés. Ça, c'est une réalité qui est partagée par une grande partie de la population mondiale. On va partir direction Malasaña, quartier emblématique de Madrid, pour son héritage baroque, son histoire littéraire et surtout pour avoir été le berceau de la Movida, le mouvement politique et culturel qui a prospéré dans les années 80 après la dictature franquiste. Mais depuis les années 2010, le quartier est envahi par les touristes et se gentrifie énormément. Les bars et les appartements touristiques fleurissent à tous les coins de rue, avec à la clé des nuisances et une augmentation des loyers. Les habitants tentent de résister et ne voient pas forcément d'un bon œil le retour des touristes internationaux. Notre reporter Ina Sadal Garcia a rencontré Jordi Gordon, porte-parole du collectif SOS Malasaña, un collectif de voisins menacés d'extinction.
Ici, c'est une des places les plus bruyantes. J'ai un ami qui vit là et par exemple, l'été, il ne peut même pas ouvrir ses fenêtres. Il ne peut pas lire, il ne peut pas regarder la télévision ni écouter de la musique parce que ses terrasses font un de ces bruits. C'est insupportable d'être ici pour lui. Moi, ça fait 20 ans que je vis là et la vie de quartier que j'ai connue n'existe pratiquement plus. À l'époque, il y avait quelques bars, mais pas beaucoup. Il y avait surtout des boutiques de vêtements et de plein d'autres choses. Encore et aujourd'hui, ce sont presque tous des bars. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, à 200 mètres, 8, 9, 10. Aujourd'hui, presque aucun commerce de première nécessité ne survit parce que la restauration est plus rémunératrice. C'est vrai que la majorité des gens qui viennent à Malasaña ne viennent pas pour découvrir l'art baroque, mais plutôt pour profiter des bars. C'est d'ailleurs l'un des principaux problèmes. Le tourisme de Malasaña est essentiellement un tourisme festif et bien souvent peu respectueux. Ce sont des jeunes qui viennent s'enivrer et qui parfois ne louent même pas un lieu pour dormir. Ils passent toute la nuit ici. Ils arrivent un matin, ils font la fête toute la nuit et le lendemain, ils rentrent bourrés à Paris, à Londres, à Liverpool ou ailleurs. Ça veut dire que tous les week-ends, des dizaines de milliers de personnes débarquent, envahissent les rues et restent là toute la nuit, nous empêchant de dormir. Sans compter que depuis le développement de Airbnb et la touristification de nos villes, cette agitation de la rue s'est déplacée à l'intérieur des bâtiments.
La pandémie a changé quelque chose ou pas du tout ?
La pandémie nous a permis de vivre une saison merveilleuse, paradoxalement. Soudain, nous avons découvert que nous, les voisins, nous existions. Nous avons ouvert nos fenêtres, ouvert nos balcons. Nous parlions avec les voisins d'en face, avec les voisins d'à côté. Nous applaudissions le personnel médical. Les gens sortaient prendre le soleil sur les balcons et les terrasses. Ils lisaient. Soudain, il y avait de la vie derrière les murs. Maintenant, avec la fin de la pandémie, nous revenons à une forme de réclusion. Nous, les habitants, nous redevenons invisibles. Nous sommes à nouveau derrière les murs et les fenêtres, souffrant du bruit qui nous empêche de dormir la nuit. Et le problème, c'est qu'au lieu de servir à rééquilibrer les usages dans ce quartier, le Covid a empiré la situation parce qu'au nom de la crise économique, tout se vaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a offert au secteur de la restauration la possibilité d'étendre les terrasses. Sur le principe, nous n'y sommes pas opposés. Mais beaucoup en ont profité pour occuper encore plus d'espace. Il y a des rues, par exemple, où l'on ne peut même plus circuler à cause des tables. Regarde ici, combien de tables on a ? 50, 60, 70 tables de terrasse ? Toutes les places ont été bétonnées et ne servent plus qu'à ça, à accueillir des bars et des terrasses. Ici, les enfants ne peuvent même plus jouer.
Comment vous voyez le tourisme de demain ? Qu'est-ce qu'on va retenir de cette pandémie ?
Le modèle du tourisme de masse n'est pas soutenable. Pourquoi est-ce que les gens viennent à Paris ? Pourquoi les gens viennent-ils à Madrid, à Séville, à Cordoue ? En soi, les gens viennent visiter les villes parce qu'il y a de l'histoire et parce qu'il y a des habitants. Sinon, ils ne viendraient pas, pas vrai ? En Europe, nous avons des villes historiques et tous les centres anciens sont menacés par cette touristification. Si on continue sur cette voie, il va se passer la même chose que pour la nature. Tous ces endroits de la planète que l'on a anéantis par cupidité humaine. Après la destruction de ces paradis naturels, nous allons finir par détruire ces paradis partie de la civilisation. Donc, si nous ne sommes pas capables de comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que cette manière intensive d'exploiter les villes, c'est tuer la poule aux œufs d'or, nous allons finir par être confrontés à un grave problème.
Pues acabaremos con un grave problema.
Un reportage d'Inès Edel Garcia, correspondante de RFI à Madrid. Éric Ballion, je crois que vous connaissez plutôt bien ce quartier. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce témoignage ?
Je trouve ça assez désolant. Le quartier de Malasiania, moi, j'y habitais, ça remontait un certain temps, dans les années 90. Et c'était un quartier qui, à l'époque, n'était pas du tout touristique, était plutôt même mal famé. Je dirais que ce qu'observent les habitants du quartier de Malasaña existait déjà à l'époque, puisque ce n'était pas celui de Malasaña qui était rempli de bars, mais celui de Santa Ana à l'époque. Et on avait déjà ces problématiques d'affluence massive le soir, de bruit, mais plus du fait des madrilènes que des étrangers. Voilà. Donc ce qui a radicalement changé, je pense, et c'était assez bien illustré dans ce reportage, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous avez des quantités très importantes de personnes qui vont se déplacer d'une ville à l'autre juste le temps d'une soirée ou d'un week-end, que l'ensemble des lieux d'habitation sont convertis en résidence Airbnb pour pouvoir les accueillir. Et je pense que cela participe peut-être à une confusion, pour moi, d'une notion qui s'est complètement confondue entre les vacances et le voyage. C'est-à-dire qu'on va maintenant passer des vacances ou des week-ends un peu partout dans le monde. Il arrivait avant 2019 que des gens aient passé un week-end à New York, ce qui est quand même quelque chose d'assez ahurissant quand on y réfléchit bien.
Effectivement.
Et c'est la même chose quand on va peut-être une nuit à Madrid. Hein. Et je pense qu'il faut remettre ça en perspective et se dire qu'il faut bien différencier la partie vacances, repos, lieu de villégiature, réunion entre amis, de la partie voyage, qui est plus une partie découverte, rencontre, immersion, itinérance. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire des voyages. On peut faire ça parfaitement très proche de chez nous, en forêt de Fontainebleau, sur les châteaux de la Loire. Mais il est nécessaire pour moi de revenir à des éléments qui sont un petit peu plus rationnels par rapport à ça. Et c'est sûr que le prix des prestations de voyage et notamment de l'avion n'a pas aidé à ce que cette massification du tourisme ne se fasse pas.
Rémi Knafou, au vu de ce qu'on vient d'entendre, Jordi Gordon qui nous dit que concrètement le tourisme menace, j'allais dire l'habitat naturel, mais c'est presque ça, en tout cas les habitants d'un quartier, est-ce que vous pensez qu'il faudrait conserver des quartiers, des villes, des zones ou des régions peut-être sans touristes ?
Alors, des régions du monde sans touristes, probablement. Des lieux habités, c'est beaucoup plus compliqué à organiser. Ce qui se joue dans ce type d'exemple, comme dans finalement toutes les métropoles touristiques, dans les quartiers touristiques des métropoles touristiques, c'est l'acceptabilité du tourisme par la société d'accueil. La société d'accueil étant elle-même une société de touristes qui vont aller faire les touristes ailleurs et qui auront peut-être ailleurs les mêmes comportements que ceux qu'ils déplorent sous leurs fenêtres. Ce qui rend la chose encore plus complexe, comme tous les faits sociaux d'ailleurs dans le cas de ce quartier, c'est qu'il y a eu une modification de la population. C'est pas la même société qui habitait Malasaña dans les années 90 et qu'il habite aujourd'hui. Il y a eu une boboisation, enfin une gentrification de la population, c'est tout à fait évident. Et il s'est produit là, ce qui souvent se produit d'ailleurs dans des lieux touristiques, on y vient en tant que touriste, ça plaît, on veut y habiter. Et quand on y est installé, on essaye de fermer le quartier aux autres. Bon, comme c'était rappelé tout à l'heure, dans un quartier qui a été un des épicentres de la movida madrilène, c'est-à-dire que c'était quand même pas un quartier où on se couchait tôt, même avant les touristes. Donc il y a un vrai problème lié à un excès de touristes dans cette ville comme ailleurs, mais il n'y a pas que ça. Et donc pour finir de répondre à votre question, interdire non, mais mettre le holà, imposer une régulation, ça se fait dans beaucoup de lieux quand on considère que les nuisances deviennent excessives. C'est le rôle du politique que de prendre ses responsabilités et de faire en sorte qu'il y ait une pondération de la chose. Nous sommes bientôt 8 milliards d'habitants, ce qui va peut-être obliger à changer le titre de votre émission dans un avenir proche, et que nous sommes dans un monde plein, il y a du monde partout et il faut faire avec. Et c'est là la difficulté qu'il y a, c'est comment on gère à la fois tous ces flux, toutes ces contradictions, au mieux de l'intérêt des générations qui vont suivre.
On a parlé des villes, mais il y a également des zones désertées, disons, de population, des grandes zones où les écosystèmes sont très importants, où la biodiversité doit aussi être préservée. Je pense à l'Antarctique, par exemple. Vous, Rémi Knafou, vous avez proposé qu'on la sanctuarise.
Le contexte, c'est que je crois que dans un monde qui est le nôtre à l'heure actuelle, avec autant de population, autant de pression humaine sur les terres, je crois qu'il est de l'intérêt de l'avenir de la planète et surtout de l'humanité qui vit sur cette planète, de réserver un certain nombre d'espaces. Alors, dans les espaces qui sont appropriés, c'est faisable, mais ça n'est pas facile à faire. L'Antarctique présente un immense intérêt de ce point de vue-là, c'est qu'il est vide d'hommes, en dehors des bases scientifiques, dont la population se renouvelle très rapidement, donc c'est pas un habitat permanent, et il n'est pas approprié, même s'il y a des revendications territoriales d'un certain nombre d'États sur l'Antarctique. Donc, facteur supplémentaire, tout le marché touristique vers l'Antarctique, c'est un marché qui vient de l'hémisphère nord, c'est-à-dire de plusieurs milliers de kilomètres avec des bilans carbone problématiques. Donc il serait raisonnable dans l'intérêt général de faire en sorte que l'Antarctique demeure à l'écart des flux touristiques. Or, c'est le contraire qui est en train de se produire, avec un phénomène pervers qui est lié à la manière dont le discours sur le réchauffement climatique est perçu, puisque c'est comme si on nous disait parfois, enfin ça peut être réinterprété comme ça, une sorte de tourisme de la dernière chance, il faut se précipiter en Antarctique avant que les glaces n'aient fondu. Alors que de toute façon, de ce point de vue-là, on a encore pas mal de temps en ce qui concerne l'Antarctique, parce que l'Antarctique, c'est pas l'Arctique avec la fonte de la banquise, c'est pas exactement la même échelle. Donc ça serait quelque chose qui serait très compliqué à faire, puisqu'il y a déjà eu des propositions de ce type et elles sont retoquées par un certain nombre d'États qui bloquent toute négociation. Mais l'argument en faveur du tourisme, de développer du tourisme dans des lieux où il n'y en a pas, qui est un argument qu'on peut entendre dans des lieux qui sont habités, où on dit que ça va apporter des revenus à la population qui, de ce fait, vivra mieux, c'est que c'est un argument qui est tout à fait recevable. Mais dans le continent antarctique, précisément, cet argument ne joue pas, puisqu'il n'y a pas de population qui bénéficie directement de ces revenus.
Saskia Cousin, très rapidement pour conclure, vous qui travaillez beaucoup sur le continent africain, est-ce que vous connaissez des exemples de régions comme ça où l'Afrique est fantasmée, où on cherche une désertification, voire on provoque la désertification de certaines zones au profit des touristes internationaux? Et comment est-ce que ça se répercute sur les populations?
Alors oui, c'est le problème et l'enjeu d'un certain nombre de parcs. Mais moi, ce qui me dérange un peu dans cette conversation, c'est que finalement, on parle encore que des tourismes occidentaux et des tourismes internationaux. Donc ces parcs, en fait, posent des vrais problèmes parce qu'ils aboutissent souvent à l'éviction d'habitants. Mais en fait, on oppose des touristes internationaux et des habitants, alors que, par exemple, le tourisme domestique en Afrique représente 55% des visiteurs. Donc se poser la question en termes de relations de proximité, comment est-ce que les sociétés locales peuvent se réapproprier à la fois ces parcs et arriver à cohabiter entre ceux qui en vivent, et puis des touristes de proximité et des touristes internationaux, ça me paraît plus important que d'opposer en permanence, si vous voulez, des institutions internationales qui ont créé des parcs, qui les ont vidés des habitants, ce qui est important à connaître. Mais la question, c'est comment on fait pour que ces parcs puissent se réintégrer, puissent travailler avec les populations locales plutôt que de l'évincer. Et il me semble que justement le tourisme de proximité, c'est-à-dire la redécouverte par les classes moyennes émergentes ou par les élites de leur propre territoire, est un élément qui peut aider à ça, justement. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des politiques de mobilité ou de régulation qui existent, hein, comme ça a été dit par Rémi. Hein. Ce n'est pas faire porter la responsabilité sur les touristes, mais il n'y a pas d'institution internationale qui ne soit pas contrôlée, on va dire, par l'industrie aérienne. Donc une politique de mobilité qui ne soit pas basée sur les flux, mais qui soit basée sur ce que les territoires peuvent faire avec l'accueil de touristes, en fait, et puis sortir de l'imaginaire que les touristes, c'est forcément des gens qui viennent d'ailleurs.
Des gens qui viennent de loin.
Ben, actuellement, au Sénégal, on l'a vu, l'industrie du loisir, les hôtels, l'accueil, mais aussi toute l'offre culturelle, qui s'adressait à un touriste local et régional, s'en est très bien sorti. Ceux qui misaient sur le tourisme international ont fermé boutique. Et on voit très bien la différence après un an, de ceux qui avaient laissé une place à leur bassin de clientèle local. Alors, et qui avait une histoire aussi, qui est liée au scoutisme, au départ aux vacances, qui est spécifique à ce pays, mais qui existe dans d'autres. Donc, je pense qu'on est à un moment, et on ne sait pas quand la pandémie va arrêter, où on doit aussi réfléchir de cette manière-là. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, les vaccins, je voudrais quand même finir là-dessus, les vaccins qui sont faits en Afrique ne sont pas considérés comme valables en Europe. C'est-à-dire vous faites vacciner en Afrique par le système COVAX, vous arrivez en Europe, votre vaccin n'est pas considéré, enfin vous ne devez pas avoir valable. Un pass sanitaire. Donc ça pose d'autres problèmes. Voilà, ça pose d'autres problèmes qui sont les usages de la sécurité sanitaire dans le contrôle et la géopolitique des pays entre eux, quoi.
Merci beaucoup Saskia Cousin, vous êtes anthropologue et vous étiez en ligne avec nous depuis le Bénin. Merci aussi à vous Rémi Knafou d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Réinventer le tourisme, sauver nos vacances sans détruire le monde aux éditions du Faubourg. Et merci à vous Éric Ballian de l'association Agir pour un tourisme responsable. Petit présage météorologique avant de se quitter, on vous souhaite à tous un après-midi très ensoleillé. C'est A Sunny Afternoon des Kinks sur RFI. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life. Blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her mom's park, telling tales of drunken some cruelty. Now I'm sitting here sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why. Milliards de voisins, c'est fini pour cette semaine. Un grand merci à toute l'équipe de l'émission, Juliette Brault pour sa patience et ses précieux conseils, Delphine de Dianous, la jolie voix qui vous répond chaque jour sur WhatsApp, et David Brocouet à la réalisation sans qui l'émission serait beaucoup moins chouette à écouter. Lundi, une émission rediffusée sur la cuisine pour les nuls, tous les conseils pour s'en sortir sans mettre le feu à la maison. Et dès mardi, vous retrouverez Emmanuel Bastide pour parler de la ville, la nuit, royaume des fêtards et des travailleurs noctambules. Bon week-end à vous les voisins et à lundi, même heure, sur RFI. Une semaine d'actualité.